Il est 16h sur France Culture, bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous êtes à l'écoute des conférences du Carême protestant. Comme chaque année, ces conférences vous accompagnent pendant 6 semaines jusqu'à Pâques. Un temps de réflexion, un temps de retour à l'essentiel, un temps pour sortir de nos habitudes et de notre routine. Cette année, nous passons ce temps de Carême avec le pasteur Bruno Godelet de l'Église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. Le pasteur Godelet nous invite à cheminer avec 6 personnages bibliques. Ils sont touchés dans leur existence par leur rencontre avec Jésus. Bruno Godelet nous propose une mise en récit théâtral de ces figures de la Bible. Nous entrons dans le fort intérieur de ces femmes et de ces hommes. Nous comprenons mieux leur ancrage social et théologique. Notre culture, notre langage, nos imaginaires sont tapissés de références aux personnages bibliques. La littérature, l'histoire, les arts renvoient constamment aux héros des deux testaments et à leur aventure. L'analyse historique et l'analyse littéraire sont indispensables pour comprendre et interpréter les textes. Ces écrits nous parlent de ces héros ou des hauts faits de Dieu. Cependant, ce n'est pas la seule façon de comprendre la Bible. La lecture narrative a acquis ses lettres de noblesse depuis 40 ans. Elle retrouve la saveur des figures bibliques et des récits. Plutôt que d'opposer les deux méthodes, il est bien de les combiner. C'est le libre cours que suivent nos émissions de Carême cette année. Elle donne la parole à des figures narratives des évangiles. Aujourd'hui, nous sommes avec l'apôtre Thomas, croire au-delà du voir.
Je suis né en Galilée dans le tout premier quart du 1er siècle, au sein d'une famille juive ouverte à la sagesse, telle que l'enseignent les saints livres de la dernière partie de notre Torah. Ces livres, qu'on désigne par le mot hébreu « ketuvim », les écrits, étaient inlassablement cités par ceux que nous appelions les hassidim, les hommes pieux. Au vu des enthousiastes, des apocalypticiens, des révolutionnaires ou des illuminés, qui faisaient tous valoir leur parti ou leurs opinions, sur la place publique ou en privé, nous préférions de loin, dans ma famille, ces hommes pieux qui transmettaient la chokma, la sagesse hébraïque, qui nous appelle au discernement et à l'intelligence. Pas question de succomber dès lors à n'importe quel mystique qui se donne pour spirituel, ni à n'importe quel prophète ou visionnaire qui se dit inspiré. M'avez-vous reconnu? Je me nomme Thomas, appelé Didyme en grec, ce qui veut dire le jumeau. Lorsque j'ai rencontré Jésus, il était déjà accompagné de Simon et des fils de Zébédée. Mais le nombre de ceux qui le suivaient grandissait de jour en jour. Parmi eux, on trouvait des gens simples, d'honnêtes travailleurs, des femmes de bonne famille, mais également des filles en réinsertion. Certains, comme mon ami Lévi, semblaient revenir de loin. Il y avait aussi de doux rêveurs et des gens en quête d'absolu. Et puis, à l'opposé, des personnes un peu trop nationalistes à mon goût, qui n'avaient qu'une idée, chasser les Romains du pays. Tous ces gens avaient été interpellés du fin fond d'eux-mêmes par la prédication et par l'enseignement décapant du rabbi galiléen. Ces paroles nous bouleversaient. Il émanait de lui une force et une autorité naturelle, mais une force et une autorité naturelle qui ne vous mettait jamais mal à l'aise, ni ne vous contraignait. Il nous semblait qu'il avait réussi la synthèse entre les 3 parties de notre Bible hébraïque, que sont la loi, la Torah, les prophètes, les Nevi'im, et la sagesse, les Ketuvim. Jésus commentait la loi comme un docteur hors pair, magistral. Il prêchait comme un prophète, mais il enseignait aussi comme un sage, un homme pieux. Ses paraboles, ses métaphores, ses sentences, qui maniaient avec bonheur l'humour et parfois la dérision, témoignaient de son appétence pour la chokma, la sagesse. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous comme des brebis, mais qui sont au-dedans comme des loups ravisseurs, disait-il. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout bon arbre porte de bons fruits. Je croyais entendre les hommes pieux qui enseignaient la sagesse du livre des Proverbes et de Coëlette. En présence du rabbi de Nazareth, les personnes émergeaient de leurs soucis, de leur ego et de leurs aliénations. Sa parole appelait chacun à être libre et authentique. Il ne nous parlait pas de Dieu comme nos prêtres ou nos scribes, qui le dépeignaient le plus souvent comme un juge implacable, réclamant de nous l'expiation de nos fautes par des rituels et des offrandes. Avec Jésus, Dieu se dévoilait comme proche, bienveillant, compatissant. Pour lui, la foi n'était pas d'abord affaire de croyance ou de pratique religieuse, mais l'ouverture à Dieu en vue de nouer avec lui une vraie relation de confiance. Il engageait par conséquent chacun à ne pas passer à côté de la possibilité de trouver la présence et la communion de l'éternel Dieu. Très bien, me direz-vous, mais et les miracles ? Jésus a-t-il vraiment fait des miracles ? Sur cette question, il faut être très clair. Les gens qui ont écrit les évangiles, 40 ou 70 ans après la mort de Jésus, ont évidemment fait de la théologie en rédigeant leurs livres, non de l'histoire. À mon époque, la médecine était très rudimentaire. Nombre de guérisseurs parcouraient les villes et les villages. Certains remportaient de véritables succès et étonnaient bien des personnes, d'où le nom de thaumaturge qu'on leur donnait. Jésus avait quelques dons, lui aussi, en la matière. Les braves gens allaient consulter les prêtres, mais également les personnes instruites des Écritures, comme les rabbis. Souvent, une meilleure attention aux règles d'hygiène soulageait les maux. On nettoyait les plaies avec du vin et de l'huile. On appliquait des macérations ou des onguents. On recourait aussi aux bonnes plantes pour fabriquer des décoctions ou des tisanes. Et puis bien sûr, on priait pour que Dieu pardonne et guérisse du même coup les maladies qui dépendaient soi-disant des fautes. Dans une même logique, il était admis que beaucoup d'affections résultaient de la présence maléfique d'esprits impurs qu'il fallait chasser. Du coup, il n'était pas rare que les guérisseurs se fassent aussi exorcistes. De son côté, Jésus priait régulièrement pour les malades et il a pu lui arriver de pratiquer des exorcismes. Tout cela était très commun. Moi-même, pourtant dubitatif sur ces choses, je ne m'en formalisais pas. Cet aspect du ministère de Jésus est resté dans les mémoires. Or, dans leur souci de faire de Jésus un nouveau Moïse et un nouvel Élie, les évangélistes ont pris le parti de présenter la bonne nouvelle de l'Évangile en recourant, comme les anciens auteurs bibliques, au symbolisme des récits de miracles. Ainsi, de même que Moïse fend de son bâton la mer Rouge et inaugure l'exode du peuple hébreu vers la terre promise, de même Jésus marche sur les eaux et convie ses disciples à un nouvel exode vers une nouvelle terre promise située sur l'autre rive, le royaume des cieux. De même qu'Élie commande à la pluie, multiplie des aliments, puis ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, de même Jésus commande au vent, multiplie des aliments et ressuscite trois personnes. Élie guérit un homme atteint de lèpre, de même Jésus guérit des lépreux et d'autres malades encore. Il ne s'agit évidemment pas de plagiat de la part des évangélistes, mais de la même façon d'écrire que les auteurs de l'Exode ou du Livre des Rois, qui illustraient par leurs récits merveilleux la foi en la grandeur de Dieu. Les évangélistes ont voulu pareillement symboliser le pouvoir de l'Évangile sur nos âmes. Chacun sait qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. ni plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dans les évangiles, la guérison des aveugles, des sourds, des boiteux ou des lépreux représente le pouvoir thérapeutique spirituel de la réconciliation avec Dieu. Il est navrant que ces textes aient été pris par la suite, non pour de la théologie figurative, mais pour de l'histoire. Il appartient aux disciples de Jésus de ne pas être crédules, mais de comprendre, comme nous y exhortent les sages, que la foi n'est pas une affaire de croyance au surnaturel, mais la recherche de la communion avec le Créateur. Croyez-vous au reste que les chefs auraient perçu Jésus comme une menace pour la stabilité et la sécurité du peuple s'il avait accompli les miracles que lui prêtent les évangélistes? Pensez-vous qu'un événement aussi extraordinaire que la multiplication du pain pour des centaines de personnes serait resté inconnu de nos autorités? Et la résurrection de la fille de Jaïrus, celle du fils de la veuve de Naïm ou celle de Lazare, accomplie pour les deux dernières devant un large public, n'aurait-elle pas déclenché une ferveur populaire sans précédent qui aurait directement alerté le Sanhédrin? Voyons, soyons sérieux. Si Jésus avait historiquement accompli ces choses, non seulement les chefs n'auraient pas osé mettre la main sur lui, mais ils se seraient probablement convertis à sa doctrine. Ils étaient loin, en effet, d'être les gens bornés et obtus que les évangélistes décrivent en forçant un peu le trait, comme c'est de bonne guerre entre partis opposés. La vérité, c'est que le message de Jésus dérangeait les chefs et que rien ne laissait voir qu'il fût autre chose qu'un rabbin un peu thaumaturge, endossant les habits des anciens prophètes pour redire le désaveu de Dieu à l'encontre du formalisme religieux et pour appeler à son tour à la conversion, à la religion du cœur. Manque de chance pour nos autorités, Jésus était particulièrement intelligent et fin connaisseur des Écritures. Aussi ne parvenait-il pas à le prendre en défaut en public, ni à trouver un motif pour le mettre en faute. Or, plus Jésus marquait des points dans ses controverses avec les chefs, plus ils enrageaient, et plus ils le voyaient comme une menace pour la stabilité sociale que le temple parvenait encore à maintenir au sein du peuple. « Celui-ci veut démolir notre religion, s'indignait-il. Il va finir par soulever le peuple et provoquer la colère des Romains. Il faut l'arrêter avant que les choses se gâtent et que les légions ne répriment durement d'éventuels mouvements de foule. » Jésus comprenait fort bien ce que les chefs ressentaient et ce qui se tramait. Mais cela ne le faisait cependant pas reculer. Il ne se voyait pas abandonner toutes ces personnes qui trouvaient en son message du réconfort et même un véritable renouveau pour leur foi au Dieu Père dépeint par Jésus. Le Rabbi redonnait à tous force et courage. Lorsque nous comprîmes sa détermination à aller jusqu'au bout, nous avions le choix de battre en retraite ou de l'accompagner en nous disant « Advienne que pourra ». J'étais pour cette seconde possibilité, et j'en fis part à mes amis du cercle apostolique. « Allons mourir avec lui », leur dis-je un jour, avec un peu de dérision et beaucoup d'inconscience. Mais le soir où nous avons partagé avec lui le dernier repas, il se fit plus grave qu'à l'accoutumée. « Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit-il. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Mais si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Je pris le premier la parole. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus rétorqua, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe intervint à son tour. « Seigneur, Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. J'ai longtemps repensé à ces paroles. Je crois qu'elles disent l'espérance de Jésus face à la mort, mais également sa conviction qu'il faut apprendre à discerner la trace de Dieu en toute chose, ainsi qu'en tout être humain créé à l'image de Dieu, du moins lorsque celui-ci reflète sa bienveillance, son amour. C'est au travers de ses œuvres que Dieu se laisse voir, nous dit le psaume 19. Or, l'humain est aussi une œuvre de Dieu. Celui qui aime, qui met en pratique l'amour agapé, la bienveillance gratuite, celui-là manifeste la présence de Dieu en lui et lui en Dieu. C'est donc, dans un sens bien plus général qu'on l'imagine la plupart du temps, qu'il faut comprendre cette parole de Jésus au moment de son au revoir. Si personnellement, je n'avais pas cru que Dieu se manifestait en et par Jésus, je n'aurais jamais accepté d'être compté au nombre de ses apôtres. Mais j'ai vu, j'ai entendu et j'ai suivi le Maître comme on suit le bon chemin qui mène à la maison du Père. C'était un chemin lumineux, mais il passait pour Jésus par une bien sombre vallée, celle de la mort, comme dit le psaume 23. Jésus fut sournoisement arrêté alors que nous passions la nuit au jardin de Gethsémani. Saisis de frayeur, nous l'abandonnâmes tous. Moi-même, qui avais dit « Allons mourir avec lui », je n'eus pas plus de courage que les autres. Nous le laissâmes à son sort, terrifiés à l'idée d'être nous-mêmes capturés avec lui. Après un procès à charge à son encontre, nos chefs le livrèrent à Ponce Pilate, au motif qu'il incitait les foules à la sédition. Ils la tenaient, leur revanche sur lui. Reconnaissons cependant qu'il pensait agir pour le bien du peuple, pour le protéger d'une toujours possible répression romaine. Nous eûmes la douleur de voir de loin notre rabbi porter le lourd bois sur lequel on allait le clouer comme un malfaiteur. Lorsqu'il expira, entouré des lamentations des femmes qui s'étaient approchées, les larmes brouillaient notre regard à tous. Nous nous réfugiâmes dans une maison de Jérusalem pour nous cacher, et nous n'osions ni sortir, ni laisser entrer qui que ce soit. Nous étions effrayés, mais aussi profondément désespérés. Pierre, qui avait toujours été notre porte-parole auprès de Jésus, n'existait quasiment plus. Les femmes pleuraient, nous étions tous sous le choc. Comment avait-on pu le faire mourir dans d'aussi cruelles souffrances, lui qui n'était que bonté? Est-ce pour avoir sauvé des centaines de personnes du désespoir, de l'exclusion, des aliénations qui les tenaient, qu'on l'avait martyrisé ainsi sur ce bois infâme? Pour laquelle de ses paroles de sagesse, de fraternité ou d'amour lui avait-on craché dessus, l'avait-on giflé, puis fait mourir? Nous étions accablés de chagrin. Avec quelques-uns, parmi les plus pragmatiques d'entre nous, j'envisageais un moyen de faire sortir les disciples discrètement de Jérusalem afin que nul ne fût inquiété par les autorités. C'était le jour du Shabbat et il était difficile de sortir dans les rues sans nous faire repérer. Les heures passées, longues, éprouvantes. Les femmes étaient résolues à se rendre au cimetière dès les lueurs du premier jour, c'est-à-dire le dimanche matin. Il n'y avait pas grand risque, nous les laissâmes aller. Elles partirent toutes petites dans la brume matinale et je serrai les mâchoires pour ne pas pleurer. Je quittai moi-même la maison peu après pour essayer de trouver une solution propre à faire sortir les frères et sœurs de Jérusalem. Après m'être absenté un long moment, je revins vers le soir, quand le soleil était tombé. Je rentrai fatigué et bredouille dans mes recherches. Mais dès que je mis le pied dans la maison, je sus que quelque chose de nouveau s'était produit. L'ambiance était complètement changée. Au lieu des visages éteints du matin, les figures rayonnaient. C'était très déroutant. Plus de larmes, plus de sanglots, plus de lamentations, mais au contraire, une espèce d'agitation joyeuse. J'étais sur le point de faire un scandale. Comment mes amis pouvaient-ils se comporter de la sorte alors que le corps de Jésus était à peine froid? Je m'approchai de Pierre et des fils de Zébédée, quand tout à coup, Marie-Madeleine me prit dans ses bras et me dit d'une voix très douce « Ils l'ont vu aussi, Thomas !»« Qui a vu qui ?» demandai-je en essayant de me contenir. Pierre prit la parole et il me dit « Thomas, il s'est passé quelque chose d'incroyable depuis que tu es parti ce matin. Les femmes sont allées au tombeau pour apporter les derniers soins au corps du Seigneur. Or le tombeau était vide. Voyant un homme qu'elle prit pour le jardinier, Marie lui demanda si quelqu'un avait pris le corps du maître. Mais l'homme l'appela par son nom. Et Marie le reconnut. C'était le Seigneur. « Mais que me dis-tu là, Pierre ? » dis-je éberlué. « Attends, ce n'est pas tout. Nous avons couru avec le disciple bien-aimé au tombeau et nous avons trouvé les choses comme les femmes l'ont dit. Nous ne vîmes personne, mais nous notâmes que les bandes qui enveloppaient le corps de Jésus étaient toujours roulées à leur place et non défaites ou mises en boule. « Bon, et alors ?» répliquai-je d'un ton agacé. Eh bien alors que nous étions assemblés et que nous t'attendions, le Seigneur Jésus nous est apparu. Il s'est fait voir à nous, Thomas. Impossible ! Vous êtes devenu fou ! Non, Thomas, c'était bien le Seigneur. Il est apparu et il a disparu sans que porte ou fenêtre soit ouverte. J'étais hors de moi-même et je leur dis dans mon trouble, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » La suite, vous la connaissez. Jésus s'est de nouveau manifesté à nous, et comme mes frères, j'ai été retourné comme une crêpe. « Ne sois pas incrédule, me dit Jésus, mais crois. « Mon Seigneur et mon Dieu, dis-je dans mon bouleversement. « Parce que tu m'as vu, tu as cru, dit le Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole signifiante. Elle avertit le lecteur des évangiles qu'il n'est pas de bonne méthode de faire de la vue, ou même de nos autres sens, le critère de validité ou de réalité des choses spirituelles. Le devenir de l'humain après la mort relève de l'espérance, de la foi en Dieu, non de la vérification matérielle ou de la preuve démontrable. La foi n'est pas un savoir expérimental ou démonstratif, elle est confiance en Dieu. Ce n'est donc pas par la vue ou par quelque autre moyen terrestre de vérification que l'on parvient à l'espérance face à la mort et à la finitude, mais bien par la foi qui est fondamentalement confiance en Dieu. Celui qui fait l'expérience de la présence de Dieu n'a besoin ni de preuves, ni d'un savoir quelconque sur l'au-delà. La communion avec celui qui lui a donné l'être, lui suffit. Cela ne disqualifie pas l'intelligence et la raison, comme on le dit parfois, puisque Dieu nous appelle à la sagesse, afin que la foi ne vire justement pas à l'illuminisme ou à l'obscurantisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à ses œuvres qu'on discerne la présence de Dieu. C'est ce que souligne la troisième partie de la Bible hébraïque. La foi implique l'intelligence et la sagesse. Ceci dit, la parole signifiante de Jésus, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », possède une seconde visée. On peut en effet aussi y entendre la conviction que le royaume des cieux ne sera pas plus grand pour nous, les disciples qui ont accompagné et vu Jésus de nos yeux, que pour ceux qui croient en lui et en son message, sur la base de notre témoignage. C'est la mission que Jésus nous a confiée, transmettre son message et l'espérance du royaume, afin que quiconque l'accueille découvre l'amour de Dieu et saisisse la main qu'il tend à chacun. Le quatrième évangile l'a parfaitement compris, puisqu'il déclare vers la fin « Ceci est écrit, afin que vous croyiez ». C'est le moment de me retirer, mais permettez-moi cependant de vous dire une dernière chose. Parce qu'on me surnomme Didyme, c'est-à-dire le jumeau, certains ont supposé, dans les premiers siècles de l'Église, que j'étais le frère jumeau de Jésus et même que je fus crucifié à sa place. C'est ce que racontent, par exemple, les Actes de Thomas, un ouvrage rédigé évidemment bien après moi. D'autres, plus sympathiques, aiment à dire que c'est du lecteur ou de la lectrice des évangiles dont je suis le jumeau. Comme lui ou elle, je suis en effet en quête de vérité et d'absolu, mais tout en voulant comprendre. Loin d'être adepte de la foi du charbonnier, je pose des questions, je demande des précisions. Bref, j'éprouve les choses avec sagesse avant de crier au miracle. Ce rapprochement, cette gémellité avec le lecteur ou la lectrice des évangiles, me convient parfaitement. Je suis effectivement la figure du disciple qui laisse la mystique à ceux que cela intéresse pour se mettre résolument en quête d'une foi intelligente. Rien à voir, soi-disant en passant, avec ceux qui se revendiquent de moi pour justifier je ne sais quelle espèce d'incrédulité béate. Ceux qui assurent « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois » n'ont manifestement pas bien lu les évangiles. Je compte bien plutôt parmi les principales figures de la foi pascale. Foi de Thomas, ce n'est pas avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur que nous trouvons Dieu et que nous discernons sa présence. À bon entendeur, salut!
Ainsi s'achève cette troisième conférence du carême protestant, Thomas, croire au-delà du voir. Merci à Bruno Godelet, pasteur de l'Église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. À la réalisation, Thomas Jost, à la prise de son, Philippe. Le carême protestant est coordonné par Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Nathalie Chaumet. Présentation Olivier Betty pour le service radio de la Fédération protestante de France. Vous pouvez commander le texte d'aujourd'hui en écrivant au 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Pour plus de renseignements, je vous invite à surfer sur carême-protestant.org. Dimanche prochain, la quatrième conférence du carême protestant sera consacrée au témoignage de Nicodème. À suivre sur France Culture, le carême catholique, en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Beau dimanche à tous et à chacun. Thank you.